en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le 3 octobre 2008, dans le cadre du colloque international Paul Pelliot 1878-1945 de l'histoire à la légende, colloque organisé par l'Académie des inscriptions et belles-lettres et le Collège de France, Philippe Ménard, professeur à l'Université de Paris 4 Sorbonne, a donné une conférence intitulée « Paul Pelliot et les études sur Marco Polo ». Retrouvons Philippe Ménard.
J'irai ici à l'essentiel dans le peu de temps qui nous est imparti. Et je projette pendant tout mon exposé une seule image qui est le début du devisement du monde dans le manuscrit unique franco-italien conservé à la Bibliothèque nationale française 1116, que beaucoup d'éditeurs de Marco Polo en Italie et en France aussi ont cherché à traduire et que Moule et Pelliot ont traduit en anglais. Avec beaucoup d'ajouts, comme vous le voyez dans les documents que j'ai diffusés. Alors, je vais tout de suite m'occuper de la traduction, en quelques minutes, du devisement du monde, The Description of the World, publié en 1938, et mise sous les noms de Moule et Pelliot, même si Pelliot n'y a pas personnellement beaucoup travaillé, vraisemblablement, mais il a donné son accord à la méthode. J'éprouve beaucoup d'admiration pour les travaux de Moule, ses livres et une foule d'articles. Je suis obligé de dire, ce nonobstant, que son travail appelle la contestation pour les médiévistes que nous sommes. La méthode générale du patchwork est mauvaise. Dans le détail, la sélection des insertions est contestable. Et parfois, troisièmement, l'interprétation de l'ancien français est discutable. Commençons par la méthodologie. La méthode qui consiste à combiner toutes les versions pour prétendre retrouver un texte prétendument intégral est une illusion dangereuse. Moule ne l'a pas inventé, il l'a emprunté, Moule et Pelliot ne l'ont pas inventé, ils l'ont emprunté à un très grand savant italien, Luigi Foscolo Benedetto, qui déjà en 1928 a fait une édition de ce manuscrit franco-italien. J'ai montré dans les documents diffusés la page. Il croyait atteindre un texte intégral. Benedetto croyait que Marco Polo avait subi de nombreuses réductions, que son texte avait eu des parties disparues et qu'il fallait retrouver le texte original en ajoutant tout particulièrement des morceaux pris dans le manuscrit latin conservé à Tolède, manuscrit Z, du nom du cardinal Zelada, et puis du texte italien de Ramusio au XVIe siècle. Alors, le savant anglais réalise lui aussi « Composite Translation ». Il met en italique les passages ajoutés dans le texte. Benedetto n'osait pas mettre dans le texte, il mettait en pied de page. Et il place en manchette, comme vous le voyez, les sigles des manuscrits qui possèdent ces additions, sans prétendre toutefois, il le reconnaît, à l'exhaustivité. Alors, cette hypothèse préliminaire que le texte de Marco Polo aurait souffert d'abrégements anciens et répétés dans quasiment toutes les familles de manuscrits, hormis deux, est une vision à la fois simpliste, naïve et pessimiste. Je ne vais pas argumenter longuement à ce sujet. J'estime, avec quelques autres, que le voyageur vénitien a dû procéder ultérieurement, à des dates qui nous échappent, à quelques additions. Et les ajouts, 250 environ dans le manuscrit Z, et un petit peu moins, les deux tiers chez Ramusio, ont souvent un caractère de vérité. On n'est pas amené à mettre cela au compte de copistes, mais on pourrait présenter un argument que je vais laisser ici de côté pour des raisons d'horaire, c'est que nous avons une preuve que Marco Polo a ajouté quelque chose à la fin de son texte. C'est une allusion à un combat, à une guerre en Asie centrale entre Norail et Tortail de la Horde d'Or au printemps et à l'automne 1299, et il ne pouvait pas, dans sa prison en 1298 avec Rustichello, le savoir. Il a fallu des années, une fois qu'il a été élargi, à la fin août 1299, pour qu'il le sache. Donc il n'est pas sorti de prison avec sous son bras un livre complet rédigé une fois pour toutes. Nous avons des versions différentes du texte de Marco Polo. J'ai présenté l'ouverture d'un certain nombre d'entre elles, des grandes versions. On n'a pas le droit de mélanger et de confondre ces rédactions. Quand on procède à un amalgame, on détruit le caractère unique de chaque rédaction. on mélange des morceaux d'âge, de langue et parfois de style différents, voire hétérogènes. Bref, on fabrique un agglomérat complètement arbitraire. La traduction de Moule ne donne pas le texte de Marco Polo. Je me permets de le contester fermement et absolument. Elle offre un texte recomposé et imaginé. C'est un texte de Moule, c'est du Moule. Alors ce texte de Moule, j'éprouve pour Moule beaucoup d'admiration sur son livre Kinsai, sur ses études sur les chrétiens de Chine, les franciscains en Chine, etc. Mais c'est du Moule, et Ambis a traduit en français Moule, presque littéralement. Et puis après, Hierasimos a reproduit pour le grand public. Donc nous avons ainsi, en ce bas monde, un texte imaginaire qui court. Prenons un exemple rapide de la manière dont Moule a travaillé. Je ne vais pas contester toutes les additions qu'il a faites dans la page que j'ai diffusée. On pourrait tout contester. Une seule, qui est une erreur monumentale, empruntée à un fragment de manuscrit qui se trouve à la British Library, qu'autant D5, que j'ai examiné naguère en ultraviolet. Ce petit texte déclare un moment pour attester de la véracité de ses dires, comme Mansir Marc et Poul, donc deux personnages, Marco était différencié de Polo, et Poul de Lemélion. Vous voyez de Lemélion dans la traduction de Pelliot. Alors, de même que certains individus croient que le Pirée est un homme, eh bien, Moule a cru que le Mélion était un nom de lieu. Malheureusement, le mot Mélion est une grave erreur de ce copiste anglo-normand. Milione en italien est utilisé dans 3 manuscrits sur 5 de la version toscane comme titre du livre de Marco Polo. Et toujours en Italie, nos collègues donnent le mot de Milione à toutes les versions qu'ils publient. Mais laissons de côté le sens de ce Milion, qui n'est pas simple au demeurant. Donc, je crois qu'on peut dire que cette version ne mérite pas véritablement créance. Ce n'est pas en procédant à des ajouts semblables que l'on retrouve le texte de Marco Polo. Nous avons des versions différentes, et en qualité de responsable du groupe de savants qui s'est mis à publier la version française, qui est maintenant terminée, le 6e volume va paraître en octobre, je vous le signale si cela vous intéresse, aux éditions Dro, à un prix très favorable, grâce à l'aide de l'État français, naturellement. J'arrive maintenant à mon troisième petit développement, les erreurs sur l'ancien français. On ne peut pas s'improviser médiéviste, heureusement pour nous. Le traducteur Moule commet quelques fautes. Les lobriques du manuscrit franco-italien, il le traduit introduction, je regrette, mais la rubrique, c'est le titre d'un chapitre, et par extension, cela désigne les chapitres. Seconde erreur sur le mot « génération » qu'il maintient dans sa traduction. « Génération » ne signifie pas ici les descendants, la succession de personnes qui descendent par filiation de certains ancêtres. Le mot a le sens de race, espèce, sorte. Il y a plusieurs arguments que l'on pourrait présenter en ce sens. Troisième erreur de traduction, le mot « diversité » dans le manuscrit franco-italien. « Diversité » ne signifie pas « différence » ici, mais « singularité »,« curiosité », »,« chose étrange ». Donc, Moule était un sinologue très distingué, mais il est sorti de ses compétences en voulant traduire un texte vieux de plusieurs siècles et dans la langue difficile du franco-italien. Passons maintenant aux notes sur Marco Polo de Pelliot, savant éminent, savant considérable, précédé par une foule d'autres savants. Il n'est pas le premier à procéder à des identifications très remarquables et que personne n'a discuté, notamment ceux qui ont suivi Pelliot. Mais avant lui, il y a eu Marsden, il y a eu Potier, il y a eu l'archimandrite Palladius, il y a eu Émile Bretschneider, Joule, tout particulièrement, aidé par Cordier, Sir Orelstein, dont plusieurs travaux procèdent à l'élucidation de toponymes des disparus, etc. Donc, le savoir extraordinaire de Pelliot, dans ses notes sur Marco Polo, se donne libre cours. J'ai donné une page qui rentrait, après un petit découpage, sur Essina, une ville proche du Taklamakan. Il est évident que Pelliot, avec la connaissance des langues orientales, sachant le chinois, le persan, l'arabe, un peu l'arménien, le sanskrit, ayant des lumières sur le mongol, enfin ici de nombreux mots mongols, le turc, le ouïghour, il cite aussi quelques mots tibétains. Personne ne pouvait rivaliser avec lui pour les étymologies proposées, les explications phonétiques, les attestations anciennes apportées. Donc tout cela est tout à fait exceptionnel. Et j'observe que ni Jean Richard dans son index, ni Giorgio Cardona dans l'énorme Indice Ragionato de l'édition de la version toscane faite par notre collègue Valeria Bertolucci Pizzorusso n'ont contesté les identifications faites par Pelliot à la suite de beaucoup d'autres et les discussions qu'il a conduites à ce sujet. Dans ses notes sur Marco Polo, il y a une masse d'informations Pour nous, ce sont les toponymes qui nous intéressent le plus et leur identification. Mais beaucoup d'autres, sur diverses réalités, sur des plantes, des animaux. Il y a 110 pages sur le coton, par exemple. C'est peut-être un peu trop. Des régions comme le pays Tanduc, des titres honorifiques, Facfur, de grands personnages comme Gengis Khan. Longue dissertation qui s'étend sur 80 pages. Croyances légendaires comme l'arbre sec ou l'île des femmes. Donc dans tous les domaines se manifeste l'extraordinaire érudition de Pelliot et il ne s'agit pas pour moi d'essayer de déboulonner cet immense statut. Donc je le respecte et je l'admire. Toutefois, le médiéviste doit avoir une perspective particulière. Ces longues notes constituent pour nous des digressions presque toujours. Elles sont certainement utiles aux orientalistes, elles leur apportent beaucoup. Pour la ville de Kashgar, Pelliot indique l'évolution des noms de la ville à travers les âges, dans les textes chinois, indiens, sogdiens, turcs, mongols, iraniens. Cette érudition nous écrase à nous. Ils discutent les étymologies, les reconstitutions proposées par une foule de devanciers. Ils suivent l'histoire de Kashgar sous les Ming jusqu'au XVIIe siècle. Nous pouvons, de loin en loin, y attraper quelques petites informations, savoir si la ville appartient à Roubaix-Lai ou bien à Raïdou, d'autres petites choses comme cela. Mais d'une manière générale, il y a énormément d'informations étrangères à Marco Polo. Second point, les formes et les graphies relevées dans les diverses versions de Marco Polo par Pelliot appelle une certaine discussion. Alors, je prendrai surtout Essina, que j'ai distribué, cette petite ville aujourd'hui disparue, engloutie dans les sables, fouillée par Kosloff et Einstein au début du XXe siècle, sise sur une piste, comme vous le savez certainement, qui quitte la route de la soie du Sud, et cette petite ville se trouvait au nord de Djangié, dans le désert, vers Karakorum, et le nom mongol était Kararoto. Pelliot enregistré la forme du manuscrit franco-italien Essina avec un C cédillé. Ce n'est pas moi qui vais contester cela. On voit très nettement le C cédillé dans le manuscrit français 1116 et presque toujours Benedetto l'a fait disparaître. Il avait une haine du C cédillé qui était extraordinaire. Benedetto l'a imprimé par oubli, ses principes, et puis Pelliot l'a. Mais l'ordre de présentation est contestable, car il est fondé, vous le voyez, sur un ordre alphabétique des vocables médiévaux. Il aurait fallu, à mon avis, classer au sein des familles. Nous avons le manuscrit unique franco-italien qui devait venir en tête. Ensuite, par exemple, le manuscrit Z de Tolègue et Ramusio qui forment un groupe. Puis le groupe français avec ses 18 manuscrits, ses familles A, B et C. La famille toscane avec ses 5 manuscrits, la vénitienne avec ses 5 manuscrits, la rédaction latine de Pipino. Il était guère utile, surtout à mon avis, de citer nombre de manuscrits atypiques, souvent tardifs et contaminés. À vrai dire, des investigations approfondies devraient encore être faites sur ces manuscrits particuliers. Mais j'observe que Moule et Pelliot leur donnent une place démesurée. Il y a, dans ce petit article Essina, 5 manuscrits, VVL, L, LT, VB. Il faut d'ailleurs se livrer à une investigation assez longue avant de trouver les sigles, à partir de ces sigles, les cotes des 10 manuscrits. Mais enfin, cela dit, ces manuscrits, qui sont par exemple un manuscrit latin ayant subi l'influence de la version vénitienne, ne peuvent pas être mis sur le même plan que des manuscrits anciens et appartenant à des familles spécifiques. Alors, cette présentation embrouille l'esprit plus qu'elle ne l'éclaire. Et on s'occupe de l'accessoire à la place de l'essentiel. Deuxièmement, les formes médiévales citées ne sont pas complètes. Je n'aurai garde de mettre en cause. C'est impossible à un homme. Ce serait même impossible à l'équipe de 15 personnes que j'ai dirigée. Mais dans la version française, j'observe que la forme Esavar ne figure pas. Esnar non plus. Et aussi Esinar ou Esnamar. Dans l'édition Prachek de Pipino, je vois Essima qui apparaît. Et par hasard, j'avais entre les mains une photocopie du manuscrit le plus ancien de la version vénitienne. J'y vois la forme Egina. Alors, Pelliot aurait pu le savoir, puisque cette version, ce fragment vénitien ancien du XIVe siècle a été publié autrefois en 1906. Mais elle a échappé à Moule et à Pelliot. Faute de pouvoir atteindre à l'exhaustivité, il aurait mieux valu, à mon avis, faire une présentation attentive des formes les plus anciennes et les plus fréquentes. Alors, je laisse de côté quelques petites erreurs où des fiches ont dû être embrouillées. Je laisse de côté les références tronquées aux travaux cités. C'était sans doute la manière de Pelliot de travailler. Ce sont en fait des notes pour lui. Ce sont des notes qui n'étaient pas destinées Je ne suis pas sûr qu'il aurait mis toutes les références, ah, j'en suis pas sûr du tout. Mais j'observe que dans l'article Essina, les travaux de Koslov, qu'il connaissait, il était capable de lire le russe, il parlait même le russe, ai-je appris, et eh bien ne sont pas cités. Et n'est pas cité non plus l'opuscule de Koslov en allemand, Mongolei am Don't die Tote Stadt, Kararoto, etc., publié en 1925 à Berlin. Cela aurait pu nous intéresser, nous autres éditeurs de Marco Polo. Alors, discussion des choix, du choix des mots vedettes. Un très bon principe a été pris par Pelliot, qui est de prendre la forme franco-italienne, parce que c'est un manuscrit ancien, il est plus complet que les autres, et il passe pour le meilleur manuscrit. La langue est complètement déformée. Le français de ce manuscrit franco-italien subit des altérations fondamentales en morphologie, en syntaxe, mais surtout en morphologie. Mais ce faisant, Pelliot n'a pas pris garde que l'édition de Benedetto transformait assez profondément les toponymes. Il a oublié de regarder le manuscrit français 1116 qui est la base de Benedetto. Et j'ai pris la peine de le regarder. Je me suis aperçu que Benedetto modifie, par exemple, pour la ville chinoise de Yangzhou, au centre de la province du Jiangsu. Benedetto imprime Y-A-N-G-I-U, Yangzhou. C'est très joli, c'est très proche de Yangzhou. Pelliot prend Yangzhou comme mot vedette, mais si on regarde le manuscrit, on voit que le codex dit clairement au folio 63, Yangui, Y-A-N-G-U-I. Ce n'est plus la même chose. Dans les trois jambages qui terminent le mot, les deux premiers sont réunis par le bas. Au plan paléographique, on ne peut pas lire U, on est obligé de lire UI. Aucun doute n'est permis. Et il est malgré tout important de conserver dans un ensemble de notes semblables la véritable forme que l'on trouve dans le manuscrit franco-italien et non pas d'imprimer quelque chose qui a été déformé par Benedetto. Je pourrais apporter un assez grand nombre, mais compte tenu de l'heure tardive, du fait qu'on ne m'écoutera plus si on a grand faim, j'arrête ces considérations. Je dirais que je devine pourquoi Benedetto a procédé à ces transformations. Il voulait donner davantage de lustre et d'authenticité au manuscrit franco-italien qu'il éditait. Il voulait donc rapprocher les graphies du manuscrit, qui possède une finale en I, il voulait les rapprocher des mots chinois en Hanzhou. Mais c'est une transformation arbitraire, c'est du trompe-l'œil. Ce faisant, il déforme et défigure les graphies médiévales. Alors, le malheureux Pelliot a suivi de trop près. Alors, je laisse de côté quelques inventions de Pelliot qui invente quelques formes absentes qui n'existent. C'est très rare, très très rare, absentes dans de tous les manuscrits. J'arrive à mon dernier petit développement que je survole, l'omission dans les notes on Marco Polo de divers mots importants pour la géographie, l'histoire, la civilisation, il y en a beaucoup, et certains très importants, comme le mot tartare, par exemple, parfois des noms géographiques, comme la province où l'on trouve le minerai d'amiante dans la Chine de l'Ouest, pour les côtes de l'Inde, Mahabar, Malabar, le mot Tibet, si important parce que Marco Polo lui consacre deux chapitres. Il n'est naturellement pas allé au Tibet, mais il en parle après avoir parlé de Chengdu dans le Sichuan. Il évoque en fait les régions montagneuses du Sichuan, mais Pelliot n'a pas eu le temps de s'en occuper. Il ne faut pas lui en tenir rigueur. Simplement, j'observe, je constate que l'oiseau fantastique de Madagascar, le ruc, n'apparaît pas non plus. Alors, je vais conclure dans les temps, me semble-t-il. Il aurait été intéressant d'étudier, Pelliot pouvait le faire admirablement, l'adaptation des toponymes étrangers dans la langue médiévale. À partir de quelle forme, sans doute entendue par Marco Polo, nous avions chez les copistes et telle désinence. Pourquoi il y a des noms chinois différents, par exemple, dans la province du Jiangsu, la ville de Suzhen, de Yijiang, et aujourd'hui de Suzhou, qui s'appelait alors Tianzhou, ces noms différents se trouve écrit quasiment pareil en ancien français, Singui, C-I-N-G-U-I, S-I-N-G-U-I. Naturellement, Benedetto imprime Saint-Jules. Alors, je conclue. Les notes sur Marco Polo constituent un travail considérable, remarquable, admirable, que nous citons toujours en raison de l'immense érudition de l'auteur. Le livre n'est pas tout à fait au point, évidemment, et malheureusement, certains articles sont trop longs, le coton, d'autres trop courts. La bibliographie manque, des explications sur les signes diacritiques ne sont jamais données, etc. Il y a surtout des développements parasites. Mais c'est une œuvre qui a été publiée après la mort de son auteur. C'est merveilleux que Ambis et ses collaborateurs l'aient fait. Ils ne pouvaient pas améliorer, à vrai dire, la présentation. Les œuvres interrompues restent inachevées, comme Virgile l'a dit très bien dans l'Énéide, 4,88. Pendent opera interrupta, et mon exposé s'arrête incontinent.
Vous venez d'entendre Philippe Ménard de l'Université de Paris 4 Sorbonne donnant sa communication Paul Pelliot et les études sur Marco Polo dans le cadre du colloque international Paul Pelliot 1878-1945 de l'histoire à la légende organisé par l'Académie des inscriptions et belles lettres et le Collège de France. C'était le 3 octobre 2008.